C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans le premier numéro de cette nouvelle saison de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 24 septembre et aujourd'hui nous allons parler des micro-organismes.
De quoi s'agit-il? Comment se forment-ils? Ou encore, quel est leur comportement face au réchauffement climatique? Pour en parler avec nous, nous recevons Romain Delattre, doctorant au laboratoire Dynamicure et président de l'association Normandie Doc.
Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec la création d'une bibliothèque numérique composée de textes écrits en patois de Normandie.
C'est l'aboutissement de 5 ans de travail. Le 16 septembre dernier, la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen a enfin pu dévoiler 250 textes sur sa nouvelle bibliothèque numérique Parole de Normand. Une équipe de chercheurs en histoire et en linguistique de l'Université de Caen, du CNRS et de la Fabrique de Patrimoine en Normandie s'est réunie en 2019 pour recenser et éditer près de 1500 œuvres, des textes en patois normand datant pour certains du Moyen-Âge.
Et pourquoi ont-ils tenu à révéler ce corpus?
Eh bien parce que le normand serait une langue en grand danger selon l'UNESCO. La région a donc décidé de mettre en place une stratégie pour la sauvegarde et la valorisation des parlers normands, dont cette nouvelle bibliothèque fait partie. L'objectif à terme, y mettre en ligne l'intégralité des textes rédigés dans divers parlers normands entre le 15e siècle et 1918. Pourtant, si le corpus n'est pas encore complet, il s'agit d'ores et déjà du plus important ensemble de ce type. L'application Too Good To Go alerte sur le gaspillage alimentaire.
Et oui, à l'approche de la journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire du 29 septembre, l'entreprise a publié hier un communiqué rappelant que chaque Français jette environ 25 kg de nourriture consommable par an, d'après les données fournies par Eurostat. C'est donc près d'un repas par semaine et par personne qui finit à la poubelle, un chiffre énorme qui, en plus d'avoir un impact sur notre porte-monnaie, a des conséquences directes sur l'environnement. C'est l'utilisation en vain de près de 1,3 km de terres agricoles et de 390 litres d'eau, soit l'équivalent de 2 baignoires pleines par Français et par an.
Mais d'où viennent toutes ces pertes ?
Eh bien, le gaspillage alimentaire chez le consommateur a plusieurs causes. Mauvaise compréhension des dates de consommation, mauvaise conservation des produits, achat ou encore préparation en trop grande quantité, des causes donc qui auraient pu être évitées en étant plus vigilants. Et nous, les Français, sommes particulièrement peu doués puisque le gaspillage des consommateurs représente chez nous un tiers de notre gaspillage alimentaire total. Au Groenland, le naufrage du navire Adolf Jensen provoque une marée noire.
L'accident a eu lieu ce jeudi 19 septembre. L'Adolf Jensen contenait près de 20 000 litres de carburant lorsqu'il a coulé dans un fjord du Groenland. Une pompe et un barrage flottant ont immédiatement été déployés, mais une marée noire s'est tout de même produite en raison de problèmes liés aux marées, au vent et au courant marin, ont annoncé les autorités locales.
Et qu'en est-il de la situation aujourd'hui?
Le ministère de la Protection civile et de l'Environnement a sollicité le commandement arctique de la marine danoise pour assurer la récupération et le traitement du carburant diesel déversé. Pour les navires présents dans la zone, la police a appelé à la prudence tout en exigeant une navigation lente pour minimiser les perturbations dans l'eau. La Terre sera dotée d'une deuxième lune d'ici quelques jours.
En quelque sorte, oui, il s'appelle 2024 PT5. Cet astéroïde va se mettre en orbite autour de la Terre pour 2 mois, à partir du 29 septembre, d'après les calculs des astronomes. Il repassera ensuite brièvement près de la Terre le 9 janvier 2025.
Mais est-ce qu'on pourra l'observer ?
Malheureusement non, il ne sera pas visible car trop petit. Alors que notre Lune mesure 3500 km, cette dernière a un diamètre de seulement 10 mètres. Alors même avec un télescope puissant, elle ne sera qu'à peine visible.
Et ce phénomène est-il inédit ?
Si de tels scénarios se produisent rarement, 2024 PT5 n'est pas le premier astéroïde à se mettre en orbite autour de la Terre. En 2006, une mini-lune avait elle aussi tourné autour de notre planète pendant un an. L'Apple Watch pourrait résoudre les problèmes d'apnée du sommeil.
À l'occasion de la sortie de l'Apple Watch 10, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités qui permettraient de diagnostiquer cette maladie qui touche près de 14% des Français. Il suffit de porter la montre pendant la nuit, elle va répertorier les perturbations respiratoires et noter les changements au quotidien qui pourraient avoir des conséquences comme la variation du poids, la consommation d'alcool ou les fortes activités. Au terme du mois d'étude, un rapport est fourni à l'usager pour savoir si l'apnée du sommeil est absente, modérée ou sévère.
Et le géant de la tech propose aussi de régler les problèmes auditifs.
Oui, une aide auditive qui amplifie la voix arrive cet automne sur les AirPods Pro 2. L'usager doit, là encore, passer un test pour évaluer le niveau de son audition. Concrètement, les micros captent le signal audio et l'ajustent automatiquement en fonction du profil auditif de l'utilisateur. Un algorithme permet également de réduire automatiquement les bruits parasites trop forts.
Mais est-ce que ça marche ?
Eh bien, pas toujours. L'Apple Watch ne détecte l'apnée du sommeil sévère que dans 89% des cas et l'apnée modérée dans 43% des cas. Faute de détection, elle n'émet pas d'alerte. Pour les problèmes auditifs, l'entreprise assure que le taux de faux positifs a été nul durant les études de validation, mais son efficacité reste cependant à déterminer. Et pour terminer ce flash, coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 172 ans, c'était le premier vol de ballon dirigeable.
En effet, il s'agit de l'aérostat Giffard, nommé ainsi d'après son constructeur, l'ingénieur français Henri Giffard. C'était donc le premier aérostat capable d'être manœuvré, contrairement à par exemple une montgolfière qui est simplement poussée par le vent. Il a pris son envol le 24 septembre 1852 donc, et a volé de Paris Place de l'Étoile jusqu'à Élancourt. Un vol de pas moins de 28 km qui s'est élevé à 1800 mètres au-dessus du sol, un véritable exploit pour l'époque. L'inconvénient, l'engin ne pouvait pas aller à l'encontre du vent et avait une vitesse de pointe de seulement 10 km/h.
Et à quoi ressemblait cet ancêtre de la montgolfière ?
À un gigantesque ballon aplati de 44 mètres de long et duquel était suspendu par des cordes une plateforme en bois. C'est là que se situaient le conducteur et la voile triangulaire faisant office de gouvernail. En dessous, une chaudière à vapeur et une hélice permettaient de propulser l'engin. Il aura fallu attendre presque 20 ans pour reproduire un tel exploit de navigation en 1872.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Le plus souvent invisible à l'œil nu, il se trouve partout autour de nous, mais également dans notre organisme. Aujourd'hui, nous parlons des micro-organismes.
Communément appelés microbes, ces minuscules organismes vivants contribuent à l'équilibre des écosystèmes. Mais que sont-ils ? Comment se forment-ils ? Et pourquoi est-ce qu'on les étudie ? Pour parler de ces micro-organismes, nous sommes avec Romain Delattre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant au laboratoire Dynamicure et président de l'association Normandie Doc, qui promeut la formation doctorale à travers des événements et des manifestations culturelles scientifiques. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un micro-organisme ?
Ah, ça c'est une très très bonne question et assez vaste. Globalement, en fait, moi si je pouvais résumer les micro-organismes, c'est un écosystème que l'on ne voit pas à l'œil nu. Globalement, ce sont tous les êtres vivants. Et quand je dis être vivant, c'est champignons, on peut retrouver aussi des plantes, des animaux, des protistes, des bactéries qui font la taille du nanomètre et en dessous, donc qui n'est pas visible à l'œil nu.
Et donc, les scientifiques peuvent parfois observer ces micro-organismes avec des...
Oui, alors oui, on a différentes méthodes pour les observer. Donc, on a des méthodes classiques qu'on connaît depuis le siècle dernier. Par exemple, l'observation microscopique avec des états frais. On a même aussi un type de coloration pour voir quel type de bactéries il s'agit pour pouvoir ensuite les observer au microscope. On a aussi des techniques beaucoup plus développées maintenant de nos jours pour ce qu'on ne peut pas observer justement à l'œil nu parce que il y a une partie qui est cultivable des micro-organismes et une autre qui n'est pas cultivable. Et pour cela, on va utiliser des technologies qui sont liées à l'ADN pour en fait, mettre en évidence le micro-organisme par sa carte d'identité quelque part.
Et est-ce qu'on sait à quoi ils ressemblent ces micro-organismes physiologiquement si on zoome très très près ?
Ah oui, on peut savoir comment la forme qu'ils ont, comment ils se déplacent. C'est ce qu'on appelle en fait un état frais. C'est globalement, on va prendre un échantillon de notre environnement, on va le poser sur notre lame de microscope et on va observer comment les micro-organismes interagissent entre eux.
Et donc, vous avez parlé du fait que c'était des êtres vivants microscopiques. Comment est-ce qu'ils vivent et comment est-ce qu'ils prolifèrent entre eux ?
Eh ben c'est un peu comme nous les humains en fait, c'est la course à la ressource quelque part. Nous les humains, avant d'être ce qu'on est aujourd'hui, on a dû coloniser la Terre, aller chercher des ressources, de la nourriture, se faire de la compétition, quand on regarde l'histoire humaine aussi, se faire des guerres de territoire pour pouvoir acquérir ces ressources-là. Le monde des micro-organismes n'échappe pas à cette règle et c'est un peu... C'est assez anthropotisé, mais c'est la course à la ressource quelque part. C'est pour pouvoir se multiplier, favoriser sa communauté et se développer et prendre le dessus sur les autres.
Et quelles sont ces ressources justement dont elles ont besoin pour se développer et pour vivre ?
Alors il y a tout un tas de ressources. Globalement, il y a deux ressources qui existent dans la nature. On parle de ressources organiques et inorganiques. Donc, les ressources organiques, c'est ce qui est composé à grande majorité de carbone, hydrogène, oxygène, azote. Globalement, ce sont les sucres. Tout ce qui est organique, c'est les groupes sucrés, ce qu'on appelle les oses. Ensuite, pour certains types de micro-organismes un peu plus spécifiques, comme par exemple les archées, on en parlait tout à l'heure, hein. Les archées sont des micro-organismes un peu particuliers, qui sont extrémophiles, et on les retrouve généralement dans des bains d'acide, des endroits pas forcément très très accueillants, et ces micro-organismes ont la particularité d'utiliser par exemple du soufre, du chlore par exemple aussi, pour pouvoir créer leur énergie derrière.
Et donc vous avez en effet parlé de ce type de micro-organisme en particulier, mais quels sont les différents types de micro-organismes si on pouvait faire une forme de cartographie en fait ?
Globalement, alors bon, ça c'est toujours sujet à débat en fait, qu'est-ce qui appartient au monde du vivant ou pas, notamment avec les virus. Donc globalement, il y a dans le règne des micro-organismes, on a les prokaryotes, les eucaryotes et les archées. Ensuite, on a une branche un peu cassée qui essaye de relier en fait les virus. Mais les virus ne sont pas actuellement considérés comme vivants. Donc, dans les prokaryotes, ce qu'on retient, c'est surtout les bactéries. Dans les archées, les archées. Et dans les ce qu'on appelle, on a aussi tout ce qui est appartient un peu au règne animal. On a ce qu'on appelle les protistes. On peut retrouver aussi le plancton, qui sont des animaux, mais aussi des végétaux. Donc c'est vraiment très diversifié, et en fait, plus on rentre en détail dans les clades, plus on se rend compte qu'on a une diversité assez folle. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a les archées, les eucaryotes et les prokaryotes, généralement dans la nature. Voilà. Et ce qui différencie les eucaryotes et des prokaryotes, c'est que les eucaryotes, comme nous, c'est la base de nos cellules, elles ont un noyau. Voilà, globalement, c'est ça qu'il faut retenir.
Et comment les micro-organismes interagissent du coup avec les autres êtres vivants, et quels impacts ont-ils sur eux ?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors il faut savoir que dans la nature, une bactérie ne se balade jamais seule. Une bactérie, c'est très très social comme être vivant. C'est un peu comme nous aussi, les humains. J'aime toujours faire cette analogie avec les êtres humains. Mais globalement, comment elles interagissent entre elles ? En fait, c'est comme nous les humains, nous interagissons avec le vivant de différentes manières. Nous pouvons nous faire la compétition, nous pouvons nous entraider, nous pouvons nous prédater, nous pouvons nous aider sans avoir de bénéfices pour soi, nous pouvons aider les autres pour avoir des bénéfices pour soi. Donc en fait, il y a tout un tas d'interactions qui se produisent dans ce qu'on appelle des communautés microbiennes. Et globalement, le but d'un micro-organisme, c'est toujours de tendre vers une communauté microbienne, c'est-à-dire vivre avec ses semblables, mais aussi avec d'autres espèces, comme nous on le fait les êtres humains avec les animaux.
Et donc vous êtes doctorant au laboratoire Dynamicure. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce labo et ce que vous faites là-bas, et comment vous étudiez les micro-organismes ?
Alors moi je suis dans un dispositif un peu spécial, puisque je suis dans une thèse de CIFRE, donc en fait je dépends d'un employeur, qui est mon employeur, c'est les produits laitiers. Donc je suis rattaché à un laboratoire universitaire qui a la particularité, lui, d'étudier en fait le développement d'un point de vue écologique, l'antibiorésistance dans les milieux hospitaliers. Donc globalement, c'est une bactérie va acquérir une résistance, comment elle va évoluer, comment elle va se comporter et comment elle va transmettre cette résistance à ses sœurs. Moi, le but de ma thèse, il rejoint un peu les thématiques de ce laboratoire, dans le sens, en fait, moi, c'est essayer de comprendre des mécanismes assez identiques, de résistance, par exemple, aux antimicrobiens, d'étudier ces mécanismes-là, mais dans un autre environnement que l'hospitalier, qui est celui des usines de poudre de lait. Et moi, je m'intéresse à une bactérie qui s'appelle Chronobacter. Donc, c'est pas une bactérie très, très connue du grand public, assez connue pour la communauté scientifique par sa dangerosité. Enfin, de base, elle n'est pas dangereuse, mais pour les personnes immunodéprimées, elle est extrêmement dangereuse. Et le but, en fait, de ma thèse, moi, c'est de comprendre quel mécanisme elle va mettre en place pour pouvoir se développer, mais aussi persister dans ces usines-là, et d'y rester un maximum de temps. Et en fait, c'est un gros problème pour les industriels, puisqu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser derrière. Et moi, c'est de trouver des solutions en essayant d'expliquer son comportement, comment elle interagit entre elles, mais aussi avec la communauté microbienne qui l'entoure.
Et là, vous arrivez à la fin de votre thèse.
Oui.
Et vous en êtes où, en fait, dans cette recherche ?
Ah bon, après il y a des choses confidentielles que je peux pas trop dire parce que bon, je suis quand même rattaché à un employeur privé, mais globalement sur la persistance, on a fait des bonnes avancées, notamment sur la désinfection. Ça, on voit qu'il y a des trucs à revoir sur la désinfection par exemple, mais il y a aussi des caractéristiques vraiment propres à chacune des bactéries que j'étudie. Par exemple, il y a des bactéries qui sont extrêmement résistantes à la température, d'autres non, d'autres qui vont résister aux désinfectants, d'autres ben non, pas du tout. D'autres, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui sont capables de former des communautés beaucoup plus rapidement que d'autres, alors que d'autres en sont totalement incapables. Donc voilà, moi j'essaye d'évaluer, hein, si vous voulez, un peu cette biodiversité qui tourne autour de ma bactérie pour pouvoir trouver des solutions vraiment concrètes pour pouvoir au mieux éradiquer cette bactérie qu'on ne souhaite pas retrouver dans les poudres des nourrissons, quoi.
Et comment est-ce que vous faites pour étudier ça justement, comment elles évoluent les micro-organismes ?
Eh ben là, on va rentrer dans la génétique. Hein. Globalement, tous les êtres vivants, hein, toute la base du vivant, c'est l'ADN ou l'ARN. Donc moi, mes bactéries, elles ont de l'ADN. Et il faut savoir que les bactéries, elles ont la capacité de communiquer entre elles. Et cette capacité à communiquer, elle passe souvent par l'ADN. Et pour essayer de vous illustrer ça, par exemple, la résistance aux antibiotiques, que l'on connaît tous, eh ben, elle est induite par cette transmission par l'ADN. C'est-à-dire, je suis en situation de un peu compliquée, je prends un antibiotique, j'ai un peu de mal, eh ben, y a une sœur qui va venir m'aider, qui va me transmettre un bout d'ADN de résistance, et ça va me permettre de survivre dans l'environnement. Donc moi, ce que j'étudie, en fait, c'est le génome de ces bactéries dans le temps. Globalement, pour voir si elles ont acquéri, si elles ont perdu de l'information. En fait, c'est comme un dialogue, mais dans lequel on peut retrouver un peu la trace, si vous voulez. C'est comme si on écrivait un livre, on enlève des phrases, et en fait, mon but, c'est essayer de retrouver cette phrase dans le livre, en fait, quelque part. Si vous voulez un peu une image un peu plus simple.
Donc, depuis tout à l'heure, vous parlez des micro-organismes vraiment comme quelque chose de vivant, d'inscrit dans le même monde que nous, en fait. Et du coup, comment les micro-organismes réagissent au réchauffement climatique et aux changements environnementaux en ce moment ? Est-ce que vous arrivez à voir ce qui se passe ?
Alors ça, c'est assez compliqué, ça, parce que c'est pas quelque chose de vraiment palpable. Déjà pour nous, le changement climatique, c'est quelque chose d'assez abstrait pour certains. Mais globalement, ce qu'il faut retenir dans le comportement des micro-organismes, c'est qu'en fait, le fait que la température globale à l'échelle de la Terre, elle se réchauffe, eh ben, ça va favoriser certaines bactéries qui se développent à telle ou telle température. Globalement, quand on regarde un réchauffement climatique, c'est-à-dire la tendance qu'on voit actuelle, on prend plusieurs degrés par an. Généralement, on prend un degré. C'est à peu près ça, hein, l'ordre d'idée. Hein. Et globalement, voilà, ça va favoriser. Et des fois, ça favorise des bactéries ou des micro-organismes que l'on ne veut pas avoir. Et ce qu'on appelle les zoonoses. Donc, globalement, les zoonoses, ce sont des maladies qui touchent les animaux. Et qui se développent très très bien entre 25 et 37 degrés. Donc, quand on a une température globale qui tend là vers 22 degrés, mais qui dans ces futures années va tendre vers les 25 degrés, et ben en fait, ça va favoriser des bactéries que l'on ne désirerait pas avoir. Ou même, ça peut aussi favoriser certaines bactéries qu'on voudrait avoir, mais qui vont sans le vouloir, complètement dérégler notre environnement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est globalement, c'est que les micro-organismes, c'est la base de l'environnement. C'est eux qui sont en fait l'indice de la santé de l'environnement. Si par exemple, votre terrain, par exemple, vous cultivez des patates, ça c'est un exemple, hein. Et ben, sachant que 80% des micro-organismes sont en symbiose avec les plantes, si votre communauté microbienne dans votre sol n'est pas bonne, et ben vos patates ne pousseront pas. Donc, vous ne pourrez pas faire d'agriculture, donc ça va vous toucher directement dans la santé humaine, puisque vous ne pourrez pas vous nourrir. Donc, en fait, c'est un peu la base de tout, si vous voulez, les micro-organismes.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes avec Romain Delattre, doctorant au laboratoire Dynamicure et président de l'association Normandie Doc, pour parler des micro-organismes. À l'occasion de la fête de la science, vous faites une conférence sur les micro-organismes mangeurs de plastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et ce que c'est que ces micro-organismes ?
Ah oui, bon, on va pas essayer de spoiler toute la conférence, hein. Mais ouais, globalement, je vais essayer d'apprendre au public, voilà, comment on fait pour aller trouver des bactéries mangeuses de plastique, comment on fait pour les repérer dans la nature, comment on fait pour aller les chercher, parce que c'est un peu exotique, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les bactéries, elles mangent surtout du sucre. Et là, on a des bactéries qui mangent, qui mangent pas de sucre, en fait. Donc, voilà, en fait, le but, voilà, j'ai une très grande passion pour l'océan. Et j'aimerais en faire plus tard travailler dedans, notamment sur ce qu'on appelle la bioremédiation, c'est soigner le vivant par le vivant. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais globalement voilà, c'est on a une pollution dans un environnement et en fait on va utiliser des micro-organismes pour dépolluer cet environnement. Et voilà, comme je vous disais, le but de la conférence, voilà, c'est déjà de sensibiliser le public aux différents types de pollution que l'on peut croiser dans la mer. Notamment, il y a plein de, hormis le plastique qu'on le connaît tout ça, il y a les hydrocarbures, il y a aussi la pollution organique aussi, par exemple l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est la prolifération des algues. Par exemple, ça, on peut le retrouver sur les côtes normandes et bretonnes, si je ne m'abuse, hein, par exemple, avec les grandes poussées d'algues. Donc voilà, c'est essayer de sensibiliser le public à ces différents types de pollution. Montrer que voilà, il y a déjà des solutions existantes pour dépolluer, mais il y a aussi des solutions innovantes qui passent par les micro-organismes, justement.
Et du coup, ces micro-organismes, ça pourrait vraiment être une réponse à la surpollution des mers et des océans ?
Alors, ça, c'est une très très bonne question, parce qu'en fait, il faut voir ce qui est applicable et ce qui n'est pas applicable dans la science. Nous, ce qu'on essaye de. Le but de tout microbiologiste qui se respecte, c'est quand il découvre un nouvel micro-organisme dans l'environnement, c'est pouvoir le cultiver. Ensuite, une fois qu'il a réussi à le cultiver, il faut comprendre comment il fonctionne, comprendre son impact, son rôle dans cette chaîne, de la chaîne alimentaire, d'un point de vue microbiologique. Où est-ce que c'est situé, qu'est-ce qui fait que ce micro-organisme apporte un équilibre à cet environnement quelque part ? Pour ensuite trouver des solutions, par exemple, avoir des bioréacteurs, multiplier cette bactérie plein de fois et la relâcher dans l'environnement. Mais le souci, c'est quand on relâche quelque chose comme ça dans l'environnement en trop grande quantité, généralement, il y a un déséquilibre qui va se créer. Donc là, c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais on est sur des zones extrêmement polluées, qui sont déjà déséquilibrées, dans lesquelles on va rajouter encore un déséquilibre. Si vous voulez. En fait, faut comprendre en fait l'impact de ce que l'on va faire. Et c'est ça le plus dur pour un microbiologiste, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il fait et aussi de savoir l'impact que peut avoir ses actions. Par exemple, s'il applique quelque chose de concret à l'environnement.
Et comment est-ce que vous les avez découverts, ces micro-organismes ?
Alors, donc ça, c'est en regardant des vidéos sur Internet. J'ai regardé en fait une vidéo sur Ocean Cleanup, qui est une start-up assez connue, hein, qui dépollue les océans avec leurs grands filets et leurs grands bateaux. Et en fait, j'ai eu un espèce de tilt quand j'ai vu cette vidéo. J'ai dit, mais ok, ils enlèvent le plastique que l'on voit, mais en fait, les nanoparticules de plastique, le microplastique, ça, mais comment on fait pour s'en débarrasser quelque part ? Donc, je suis allé derrière, je me suis dit, mais il doit peut-être y avoir existé des solutions, des trucs comme ça. Donc, en fait, je suis allé directement dans la littérature scientifique et j'ai regardé, et bingo, là, j'ai trouvé quelques études qui parlaient de. Voilà, on a réussi à trouver une enzyme d'une bactérie à tel endroit, hyper polluée à Marignane, qui possiblement dégrade les hydrocarbures. Donc déjà, on avait une petite base dessus. Et ensuite, il y a un laboratoire à Marseille qui travaille exclusivement sur ces problématiques-là, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une grande zone portuaire qui est extrêmement polluée dans le pourtour marseillais. Et ce qui est aussi un problème pour la biodiversité avec les calanques, tout ça. Et du coup, je me suis intéressé aux travaux un peu pionniers que faisait ce laboratoire et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Et le coup de grâce qui m'a dit, en fait, c'est vraiment trop bien et on peut l'appliquer ça, c'est quand je suis allé visiter le musée des micro-organismes à Amsterdam. Et ils ont un laboratoire dans ce musée-là. Et dans ce laboratoire-là, ils cultivaient des bactéries qui dégradait le plastique, justement. Il faisait des démonstrations. Et de là, j'ai eu cette idée-là et j'ai dit, pourquoi pas ?
Est-ce que, de ce qu'on a vu, ces bactéries-là, elles dégradent tous les plastiques ou seulement certains plastiques ? Parce que chaque plastique...
Oui, chaque plastique est différent. En fait, chaque bactérie va avoir sa spécialité. Après, il y a des alliages de plastique qui sont plus ou moins complexes. Donc, potentiellement, on ne fera pas qu'intervenir qu'une seule bactérie. Peut-être qu'il y a une première bactérie qui va dégrader en grande partie le plastique, mais qui ne va pas pouvoir le digérer derrière. Et derrière, on va peut-être faire intervenir une autre bactérie qui va pouvoir l'emmagasiner et l'éliminer comme ça.
Et est-ce qu'on sait comment elles sont apparues, ces bactéries ?
Ah, ça, c'est la génération spontanée. Ça, c'est un... ça, c'est... Ça, ben... On ne sait pas. Enfin, ça, c'est remonté un peu aux origines du vivant. Donc, globalement, elles existent certainement depuis toujours, ces bactéries-là. Depuis toujours dans la nature, elles existent, ces bactéries-là. Donc, ce qui est le plus plausible, c'est un mécanisme d'adaptation. C'est-à-dire, cette bactérie-là, elle était indigène à cet environnement, puis il y a eu cette pollution qui est arrivée, cette pollution plastique ou même d'hydrocarbures. Il y a une grande partie de sa population qui est morte, mais une petite partie qui a potentiellement subi ou acquis des résistances, en fait, si vous voulez, comme la résistance aux antibiotiques, et qui a su se rediriger vers une autre source de carbone qui n'était pas la sienne initiale. C'est le plus plausible, c'est un mécanisme d'adaptation, globalement. Après, l'origine, c'est un peu l'œuf ou la poule qui était venue avant, ça, on peut pas le savoir.
Parce que quand on dit micro-organismes mangeurs de plastique, est-ce que concrètement, c'est littéralement ce qui se passe ? Comment elles agissent, ces bactéries, d'un point de vue très pratique ?
Alors, il y a d'un point de vue pratique. Alors, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des bactéries qui sont capables de sécréter des enzymes. Alors, les enzymes, ce sont des protéines qui vont avoir une action. Globalement, c'est ça. Globalement, nous, on sécrète des enzymes dans notre salive. Par exemple, on a l'amylase qui nous sert à digérer l'amidon. Et ben, les bactéries, c'est pareil. Elles sécrètent des enzymes dans la nature et ça va attaquer le plastique et le digérer et changer sa composition pour pouvoir ensuite le digérer. Ensuite, il y a d'autres types de bactéries qui, elles, vont internaliser le plastique avec ce qu'on appelle des vésicules. C'est-à-dire, en fait, elles vont se creuser, elles vont arriver vers le plastique, elles se refermer. Et quand elles se referment, elles créent une espèce de bulle à l'intérieur d'elles qui contient le plastique. Et ensuite, dans cette bulle, qu'on appelle aussi une vacuole quelque part, il va y avoir l'intervention de nouvelles enzymes qui vont dégrader cette nouvelle matière organique. Donc globalement, il y a deux types de dégradation. Il y a une dégradation externe, elles agissent dans la nature, au sein même de la nature, mais il y a aussi une dégradation interne. Donc en fait, il y a deux types de dégradation globalement, ce que l'on peut trouver. Après, il y a d'autres types, dans les dégradations internes, il y a quatre types, je n'ai pas forcément rentré dans tous les détails, mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir, il y a une dégradation interne et externe.
Et donc, vous allez faire une conférence sur les micro-organismes mangeurs de plastique. Et c'est quoi l'enjeu de faire de la médiation scientifique autour de ce sujet ?
Les enjeux de la médiation scientifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de sensibiliser en fait le grand public à toutes sortes de pollutions que l'on peut retrouver dans nos océans, mais ce sont des pollutions un peu anodines des fois. Par exemple, la pollution hormonale, on n'en parle pas du tout. Mais par exemple, la pollution hormonale, c'est un vrai fléau sur les écosystèmes parce que ça va féminiser certaines espèces. Donc, après, j'ai parlé de la pollution aux métaux, par exemple, à la radioactivité, par exemple, qu'on peut aussi retrouver dans les océans. Par exemple, quand on a eu à Fukushima et on a retrouvé de la radioactivité dans l'océan, il y a des bactéries qui sont développées exprès pour pouvoir lutter contre ces matériaux irradiés. Donc globalement...
La question, c'était, c'est quoi les enjeux de faire de la médiation ?
Ah oui, désolé, oui, j'avais perdu un peu le fil, désolé. Donc oui, en fait, c'est de sensibiliser les gens, de montrer que chaque geste que l'on a dans la nature, c'est pas forcément anodin et en fait, tout découle des rivières, dans la pollution des océans, tout découle des rivières. Donc déjà, essayer de faire un aspect global sur le cycle de l'eau, les cycles biogéochimiques, vraiment comment comprendre vraiment l'écosystème dans lequel on évolue. Et ensuite, c'est de donner aussi un peu d'espoir aux gens pour leur dire que on est arrivé à ce stade-là, mais il y a quand même des solutions et des solutions concrètes qui vont potentiellement arriver d'ici là, d'ici ces 10, 15, 20 prochaines années.
Et cette médiation, elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à des adultes, à des enfants, des scolaires ?
À tout le monde. Après, moi, c'est mon avis personnel là-dessus, parce que je suis président de Normandie Doc, mais j'estime que la science doit avant tout s'adresser à tout le monde. Et globalement, il faut que le grand public comprenne ce que l'on fait, nous les chercheurs, pour pouvoir un peu débunker toutes ces les fake news que l'on peut rencontrer et aussi un peu de démystifier un peu la vision qu'on a du chercheur qui est dans son placard en train de chercher des trucs alors que c'est pas du tout ça, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quand on est scientifique d'essayer de vulgariser des sujets et d'être accessible en fait par justement ce grand public?
C'est tout l'enjeu de cet exercice là. C'est aussi un très très bon exercice, parce que là je me suis rendu compte que pendant les explications que je vous ai faites, je vous ai balancé plein de termes scientifiques. Bon, j'essaie de vous les expliquer, hein. Mais c'est vraiment adapter en fait un langage qui nous est propre à nous les scientifiques au grand public, et ça passe souvent par l'image. Globalement, ça passe par l'image. Et quand je vous ai imagé des solutions beaucoup plus concrètes, moins qui sortent de l'imaginaire, comme beaucoup de gens le pensent sur les scientifiques, on se rend compte, finalement, les scientifiques, ils font des choses vraiment, quelque part, un peu concrètes, quoi. C'est pas que d'expliquer des phénomènes, mais derrière, il n'y a pas d'applicable, quoi.
Merci beaucoup, Romain Delatte, d'être venu à notre micro. On le rappelle, donc, vous êtes doctorant au laboratoire Dynamicure et président de l'association Normandie Doc.
Merci.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Ça se passe en ce moment, l'exposition d'histoire de l'enseignement en santé à la bibliothèque universitaire Madeleine Bress sur le campus 5. L'exposition retrace l'histoire de l'enseignement de la médecine à Caen. Vous avez jusqu'au 4 octobre pour la visiter, c'est entièrement gratuit et il n'est pas nécessaire de réserver à l'avance. Pensez juste à vérifier les horaires d'ouverture de la bibliothèque.
Demain, mercredi 25 septembre, de 14h à 16h, c'est le tout premier atelier recyclage de plastique de l'année au Dôme. Durant cet atelier, vous apprendrez à mieux connaître les plastiques et à les utiliser pour refabriquer de la matière. C'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire sur le site internet ledôme.info.
Et enfin, on termine avec notre recommandation documentaire de la semaine, IA et cinéma, la vie rêvée des machines. C'est mercredi 25 septembre à 22h45 sur Arte. Comme vous l'avez compris, ce court-métrage traitera de l'intelligence artificielle et de ses potentielles applications dans l'industrie audiovisuelle. Rendez-vous donc sur le petit écran demain à 22h45 ou en replay sur arte.tv.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Simon pour La Méridienne. Et ce soir, retrouvez La Belle Antenne en direct de la Maison de l'étudiant. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.